L'heure de pointe, Anne-Rose Jankovic.
Alors évidemment, j'ai à mes côtés les deux chroniqueurs de cette émission, Andy Barégeau, journaliste au journal La Dépêche Nouvelle République, et Gérard Crozat, diacre pour le diocèse de Tarbes et Lourdes. Bonsoir messieurs.
Bonsoir.
Est-ce que vous êtes motard ?
Pas du tout.
Ni l'un ni l'autre, assez dommage, parce que l'invité en face de vous, Richard Carbonel, lui, il est motard et il a fait quelques 30 000 kilomètres en moto, peut-être un petit peu moins, il va tout nous expliquer. Bonsoir
à vous,
Richard.
Il a fait de la moto. Il a fait aussi.
Il a tout fait. Il va tout nous raconter dans cette émission. Mais pour le moment, c'est la première partie de cette émission. Et comme toutes les semaines, eh bien, on va faire un petit tour d'horizon sur cette actu de la semaine qui vous a marqué. Et on commence avec vous, Andy Barégeau.
L'actualité qui nous a accaparé un petit peu ces derniers temps, c'est vrai que c'est la colère du monde agricole dont on a beaucoup parlé donc, dans nos quotidiens et qui nous touche forcément ici particulièrement, mais j'ai envie de vous dire un petit peu partout dans l'Hexagone. Et c'est vrai que moi, ça me... donc, pour m'être déplacé à plusieurs reprises sur les différents ronds-points bloqués, sur l'autoroute
vous
qui a été bloquée, voilà,
ouais.
C'est ça, à la rencontre des agriculteurs, c'est vrai que c'est... On comprend vraiment leur mal-être et on se dit que c'est quand même assez préoccupant de se dire que ces gens-là travaillent pour le bien commun, hein, on est d'accord, et que malgré tout cela, ils n'y arrivent pas. Alors la question est complexe, mais il y a quand même un élément qui nous appartient un petit peu à tous, c'est la manière de consommer et la manière de flécher aussi nos priorités peut-être. Et moi, c'est ce qui m'attriste un peu, mais qui me motive un certain espoir aussi, de me dire que peut-être que si les gens prennent conscience, et j'ai envie de croire que là, il y a quand même eu, au moins chez certains, une prise de conscience de la nécessité de s'alimenter avec des choses qui viennent, alors pas forcément, tout ne peut pas venir du coin, hein, on est d'accord, mais malgré tout, il y a peut-être des choix à faire dans nos vies, peut-être que des priorités, des choses qui ne nous obligent pas, et qu'on, pourtant, à laquelle on consacre des parts importantes de nos budgets. On voulait parler à un moment de la question des cantines scolaires, de l'alimentation pour nos enfants. Peut-être qu'il faut réfléchir à est-ce que la priorité pour son enfant, c'est pas forcément d'avoir Netflix, mais peut-être de lui donner de la nourriture saine et qui a pas fait des milliers de kilomètres, non pas à moto, mais en cargo, qui polluera l'environnement comme il faut. C'est peut-être ces questions-là qu'il faut se poser. Et donc moi, j'ai envie de les soutenir par ce biais-là, aller sur les marchés. Alors on peut peut-être pas le faire forcément tout le temps. On trouvera pas de tout sur un marché. Donc c'est l'avantage du supermarché, faut pas se leurrer, c'est le côté pratique. On fait ses courses en une fois.
Mais enfin, pour vous quand même, la balle est dans le camp du consommateur.
Mais je pense que quand même, on a un rôle à jouer tous. Sans que ça. Il est quand même prouvé que ça coûte pas si cher au final. Les
le
pommes,
circuit court.
Ouais, voilà, les pommes qu'elles viennent de France ou qu'elles viennent de loin, les pommes françaises seront moins chères. Les poires, enfin, des fois, il suffit juste de regarder en fait d'où viennent les produits et on se rend compte que le même produit, quand il vient de chez nous, il est pas plus cher. Il est sans doute meilleur parce que malgré tout, on a quand même des agriculteurs qui bossent bien ici. Qui sont soumis à des normes, alors ils les critiquent, ça c'est peut-être une erreur parce qu'ils demandent moins de normes environnementales. J'ai envie de vous dire, les normes environnementales, c'est plutôt bien. C'est les autres qui devraient s'aligner sur ces normes-là, en fait.
C'est qu'en fait, ce qu'ils réclament, c'est qu'on importe au moins des produits qui respectent les mêmes règles que eux, on leur demande de respecter.
C'est qu'ils
ont un sentiment d'injustice qui peut se comprendre.
Donc
quand même.
Je trouve que les remettre au premier plan, ça peut aussi nous inviter à réfléchir un petit peu sur nos modes de consommation et ça peut être générateur d'espoir pour eux et aussi pour nous quand même. Quand on voit l'obésité qui augmente, toutes ces choses-là, la malbouffe, au bout d'un moment...
Il y a une question de santé aussi derrière.
Ouais, mais puis il faut réfléchir, ça ne coûte pas plus cher de faire une soupe que d'acheter deux Big Mac. Hein. Donc bon, au bout d'un moment, et ça coûte bien moins cher d'ailleurs, soit dit en passant, ça réclame juste d'y passer une demi-heure. Alors est-ce que les gens n'ont pas la fainéantise de passer une demi-heure à cuisiner? Sachant que la soupe peut faire deux jours, donc ça fait un quart d'heure par jour, je me dis que c'est jouable.
Moi, je fais embaucher Andy Barégeau pour faire la soupe à la maison. Mais alors, vous qui êtes journaliste, donc entier, qui allez à la rencontre, enfin là, vous êtes allé à la rencontre des agriculteurs, vous êtes allé aussi à la rencontre des consommateurs, des clients.
Alors, on en a
vous
moins
avez
vu,
cette occasion.
Vrai. Non, mais c'est vrai qu'il faudrait qu'on sonde les gens ouais, sur la manière. Et puis, il y a aussi tout le côté marketing. Hein, là-dessus, je pense que le consommateur, encore plus le consommateur de 2024, il est sensible à ça. Mmh. Il est sensible à ce qu'il voit à la télé, ce qu'il voit sur YouTube et compagnie. Et qui fait sans doute beaucoup plus de mal aux agriculteurs, parce que les agriculteurs, on les voit pas sur YouTube, on les voit pas dans les pubs, et là on les voit, actuellement on les voit, alors j'ose espérer que les consommateurs les voient aussi, et que derrière, ça entraînera des modifications.
Les agriculteurs que vous avez rencontrés, vous les avez sentis désespérés, en colère, impatients ?
Moi j'ai pas trouvé qu'il y avait d'impatience, je les trouve déterminés. Parce que je pense qu'ils savent qu'ils sont dans le bon. Alors, la plupart nous disent, ils sont pas contre l'environnement. Il y a une prise de conscience. On parlait de la question de l'eau. S'ils réclament des retenues d'eau, c'est justement pour sécuriser l'eau. Mais en l'occurrence, c'est pas pour consommer plus, puisque ça fait 2-3 ans qu'ils consomment de moins en moins, en fait. Alors que, là, on l'a vu, la sécheresse, ça va pas en s'améliorant. Donc, ils sont conscients de ça. Ils sont conscients que, ils pourront plus produire comme on produisait il y a 20 ans. Et ils sont aussi conscients qu'il y a 20-30 ans, excusez-moi l'expression, mais on faisait de la merde aussi. On a contaminé des sols, on a arraché des haies, on a fait beaucoup de choses qui ont fait du mal à la biodiversité.
Il y a toute une génération d'agriculteurs là, qui a vraiment conscience de ça et qui a envie de bien faire les choses.
Voilà, la plupart ont des gosses. Donc ils se disent, moi je veux pas que mon gosse il soit rempli de produits phyto ou comme ça. Donc c'est vrai que c'est... Je pense qu'il y a une passerelle qui se fait là entre l'agriculture d'il y a 20-30 ans et l'agriculture d'aujourd'hui, qui ne sera pas celle dans 20 ans non plus, mais qui est quand même, qui a fait des pas en avant, je pense, pour s'améliorer. Quoi. Et, donc...
et puis on n'a peut-être plus envie de laisser la main à la grande distribution, on est peut-être en train de prendre aussi conscience de ça, que
c'est
à nous de gérer la manière de consommer.
Est-ce que le public est justement prêt à s'éviter la facilité de la grande consommation, parce que la grande consommation, au-delà des questions de coût, c'est la question du pratique. C'est qu'en un lieu, vous faites tout.
Est-ce que les consommateurs ne peuvent pas pousser la grande distribution à changer un peu leur manière de faire ?
Il y a aussi ça peut être les consommateurs ou les agriculteurs aussi, mais est-ce que ça peut faire évoluer les modèles ? Pourquoi pas ?
Faut espérer. Richard Carbonel, je voyais... hocher de la tête, vous allez dans le même sens qu'Andy Barégeau, vous avez envie de réagir ?
Oui, alors moi je réagirais par rapport aux consommateurs, parce qu'en fait, il faut arrêter de vouloir manger des cerises au mois de mars et manger des tomates au mois de décembre. Ça, c'est des gestes simples, et on est tous responsables des importations. Après, je pense que l'agriculteur, il fait un métier très difficile, hein, et qui souvent n'est pas reconnu en tant que tel. Et on le voit aujourd'hui, on avait plusieurs millions d'agriculteurs il y a 20-30 ans. Aujourd'hui, on a moins de 400 000 agriculteurs, donc et politiquement, ils représentent très peu, ils en sont conscients. Et il y a aussi un besoin de reconnaissance. Et moi, je suis ravi quand je vois que sur les barrages, les automobilistes aujourd'hui leur klaxonnent, leur donnent des gestes de soutien. Et je pense que c'est une bonne action qu'on ne parle pas que de l'agriculteur et de l'agriculture au moment du salon de l'agriculture à Paris ou à Tarbes. Et voilà.
Et ça leur faisait du bien, ça aussi. Parce qu'ils disaient qu'habituellement, on leur crache dessus. Et finalement, ils se sont rendus compte que peut-être que ce qui remonte des médias, on va dire nationaux, c'est pas forcément le miroir de la société, en fait. Et que la société est quand même très attachée à ses agriculteurs.
Gérard Croza.
Oui, moi, en vous écoutant, je pense à deux choses. La première, c'est une réflexion qui est repassée cette semaine à la télévision d'une interview de l'abbé Pierre, puisque cette année, on est en train de marquer, tout particulièrement aujourd'hui, où c'est l'appel de l'abbé Pierre de 54, où il disait « ce n'est plus la peine de... » alors je le dis à ma façon, mais ce n'est plus la peine de convaincre les politiques, il faut arriver à les faire pleurer. » Et je crois qu'en fait, on a vu des hommes pleurer parmi les agriculteurs. Et je crois que ça va modifier peut-être un peu le regard que la population peut avoir sur eux, et c'est très bien. Et la deuxième chose, alors là aussi, je vais parodier l'évêque, enfin non, il n'est pas évêque, le cardinal Cantala Messa, qui est le prédicateur du pape, qui expliquait le Covid, et je crois qu'on peut faire la même chose avec ce mouvement des agriculteurs. Il expliquait de la façon suivante. Lorsque l'artiste peintre qui a peint les murs de la cathédrale Saint-Paul à Londres le peignait, il devait prendre du recul par rapport à ses tableaux et il reculait sur l'échafaudage. Et son associé qui était en bas, ou son apprenti, se disait il va se casser la figure. Donc si je le crie, il va avoir peur, il va tomber. Il ne faut pas qu'il tombe. Il faut qu'il se redresse. Alors il a pris de la peinture, qu'il a plongé dans un pot de peinture, un pinceau qu'il a plongé dans un pot de peinture, et il a éclaboussé le tableau. Ce qui fait que, bon, certainement qu'il n'a rien dû lui manquer après, mais l'artiste s'est redressé pour nettoyer le tableau. Et c'est comme ça que le cardinal expliquait le Covid, et je crois que c'est comme ça qu'on peut aussi expliquer le mouvement des agriculteurs. C'est-à-dire qu'ils nous aident peut-être, comme le disait Andy très bien, à nous redresser et à essayer de nettoyer notre paysage et de faire en sorte que ce soit une vie beaucoup plus humaine et plus belle.
Voilà, prendre du recul donc et bien être attentif à toutes les sphères qui sont touchées par cette crise agricole, puisqu'évidemment ça ne concerne pas que les agriculteurs, mais on est tous concernés par ce sujet, bien sûr. Gérard Crosa, vous vouliez parler d'un tout autre sujet, je crois.
Un tout autre sujet, oui, parce que je suis un peu touché par c'est la semaine de prière pour l'unité des chrétiens qui vient de se terminer. Il y a eu trois célébrations, on peut dire, sur notre diocèse, dont le cœur, c'est pas péjoratif pour les autres, mais était mardi dernier autour de l'évêque où toutes les églises chrétiennes étaient rassemblées à l'église de Barbazan, de Batte. Et c'est cette unité quoi, qui fait chaud au cœur, mais il ne faut pas que ce soit simplement une semaine par an où on va se dire, voilà, là, nous sommes tous unis, gna gna gna.
Et puis, de fait, c'est quand même un petit peu ça qui se passe, malheureusement. C'est que l'unité des chrétiens, on en parle beaucoup pendant une semaine, chaque année au mois de janvier. Et après on a quand même l'impression que...
Elle se vit à la base, parce que nous nous rendons visite. Si nous sommes un peu engagés dans l'œcuménisme, on se rend visite, on participe éventuellement à d'autres célébrations, cela on le fait. Mm-hmm. Mais c'est vrai que ce n'est pas visible, ce n'est pas tellement ni observable. Je crois que c'est un temps fort important. Là aussi, il faut arriver à nous dire qu'après tout, nous sommes unis parce que c'est le même Dieu, c'est la même foi. Chacun avait son style, bon, chacun avait son histoire, très bien, mais c'est tellement bien. Et puis il ne s'agit pas de tomber d'accord, il s'agit au contraire de dire ce que tu me dis c'est différent mais ça m'intéresse. Parce que justement, c'est différent. Et c'est comme ça qu'on va éduquer.
Deux sujets très différents que vous nous avez présentés cette semaine, Andy Barégeau et Gérard Crosa. Mais finalement, deux sujets que vous avez approfondis pendant votre périple à moto, Richard Carbonel. Voilà, cette rencontre avec les chrétiens. Et puis, cette découverte du monde agricole dans une toute autre culture, si je puis dire. Vous allez nous en parler dans la deuxième partie de cette émission. Mais pour le moment, il est temps de faire une petite pause musicale.
J'étais sur la route toute la sainte journée. Je n'ai pas vu de tout en toi s'immiscer. J'étais sur la route toute la sainte journée. Si seulement j'avais pu lire dans tes pensées. J'avais perdu l'habitude. chacun de mes pas. Erreur fatale, bien le temps des regrets. Je me droite dans un verre de larmes. J'étais sur la route toute la fin de journée. Je n'ai pas vu le tout en toi s'immiscer. J'étais sur la route toute la sainte journée. Si seulement j'avais pu lire dans tes pensées. J'ai fait mon mal. J'étais sur la route toute la sainte journée. Je n'ai pas vu le tout en toi s'immiscer. J'étais sur la route toute la sainte journée. Si seulement j'avais pu lire dans tes pensées. Sur la route toute la sainte journée. Je n'ai pas vu le tout en toi s'immiscer. J'étais sur la route toute la sainte.
L'heure de pointe, Anne-Rose Jankovic.
Richard Carbonel est l'invité de l'heure de pointe cette semaine. Richard, vous êtes motard depuis l'âge de 14 ans et à 57 ans, vous partez en voyage pour rencontrer des agriculteurs en Mongolie. Alors vous allez nous raconter cette histoire qui paraît quand même un petit peu dingue. D'abord, j'ai envie de demander pourquoi on ne se réveille pas comme ça un matin, tout d'un coup, en se disant « Tiens, je vais aller rencontrer les maraîchers en Mongolie. » Qu'est-ce qui s'est passé, Richard Carbonel? Pourquoi vous avez eu cette idée-là?
Bonsoir d'abord. Eh bien non, on ne se réveille pas un jour comme ça. C'est un travail de préparation en fait. Hein. D'abord c'est un rêve. Hein. Je fais partie des gens qui ont connu l'émission de Nicolas Hulot, Ushuaïa. Mmh. Et donc Ushuaïa, ça marque aussi les premières images. C'était la Mongolie, les aigles royaux, enfin toutes ces choses-là. Les grandes steppes mongoles. Et c'est quelque chose, je pense, qui a été ancré quelque part dans un coin de mon cerveau. Et puis, à 57 ans, par contre, on se dit, bon, il est temps de prendre aussi le courage à son corps et puis de faire quelque chose de différent. Donc, les enfants sont élevés, le boulot, ça tourne à peu près. Donc, j'ai des congés à prendre, donc je les ai pris. Et donc, j'ai préparé ce voyage.
Vous faisiez quoi comme travail ?
Donc, j'étais formateur dans une entreprise, dans une grande entreprise agricole. Et donc, je m'occupais de former les gens à l'aptitude au changement. Donc, j'accompagnais le changement dans les méthodes de travail dans cette entreprise-là. J'étais tout à fait dans la thématique. Donc, en fait, ce qui était intéressant, c'est que j'accompagnais les gens tous les jours en leur disant il faut sortir de sa zone de confort, il faut faire quelque chose différemment. Donc, je leur donnais des perspectives différentes dans leur façon de travailler. Et donc, j'avais aussi, moi, un besoin de me mettre un peu en danger et de sortir d'une...
De votre zone de confort.
Voilà, de ma zone de confort. J'irai pas de ma routine, parce que la vie, c'est pas une routine, surtout quand on a 4 enfants, et qu'on a un métier qui nous amène à voyager pas mal. Mais par contre, j'avais envie de sortir ma zone de confort.
Et donc, vous avez petit à petit monté ce projet d'aller à la rencontre d'agriculteurs. Alors, d'agriculteurs nomades qui ont fait le choix, enfin, ou la conversion pour devenir maraîcher. C'est très précis quand même.
Alors, exactement. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, j'ai vu sur Internet un projet qui était mené par un prêtre en Mongolie. Ce qui se passait, c'est qu'avec le changement climatique, les hivers deviennent de plus en plus rigoureux. Et donc, les gens étaient des nomades, des éleveurs. Et donc, en hiver, avec la rigueur des hivers, les bêtes se mettaient à mourir. Et donc, ils ne pouvaient plus subvenir à leurs besoins. Donc, ces gens-là ont décidé, avec le support d'un prêtre et d'un organisme non gouvernemental à Mongolie, de monter des serres, donc très rudimentaire, et de faire du maraîchage pour subvenir à leurs besoins, donc d'abord pour vivre, pour en vivre, pour se nourrir avec, et puis on est tout à fait dans le thème de l'agriculture, mais aussi pour le vendre et pour s'ouvrir, pour acheter des biens de consommation courante.
Ça c'est étonnant, mais c'est des problématiques finalement qu'on entend là.
Tout à fait. On est tout à fait dans la même thématique. J'ai pris contact avec l'organisation non gouvernementale en Mongolie. Et donc, on s'est contacté par Internet, par des mails. Et donc, j'ai décidé d'aller là-bas donc, pour passer du temps avec ces agriculteurs-là.
Alors, parce que visiblement, vous n'aimez pas faire les choses simplement, vous avez décidé d'y aller tout seul et en moto. Vous auriez pu prendre l'avion, par exemple, ou un autre moyen, je ne sais pas.
J'aurais pu prendre l'avion, c'était beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide. Par contre, pourquoi la moto ? La moto, d'abord parce que je suis passionné. Comme vous l'avez dit, Anne-Rose, je fais de la moto depuis l'âge de 14 ans. Et la moto, pour moi, c'est un excellent moyen aussi d'aller à la rencontre des gens. C'est-à-dire qu'on n'est on est pas dans une voiture, c'est très différent d'une voiture ou d'un aéroport.
Vous êtes aussi plus vulnérable en moto.
On est tout à fait vulnérable, on fait partie de l'environnement en fait. On est soumis à tout ce qui est problématique climatique. Il faut savoir que pendant ce voyage, j'ai traversé toute l'Europe sous la pluie. C'était pas prévu.
Alors vous êtes parti du 10 mai au 12 août 2023.
C'est ça, exactement. Ouais. Du 10 mai au 12 août. Alors le 12 août, je suis revenu en avion quand même. Mais peut-être qu'on en reparlera. Mais le 10 mai, je suis parti de Bagnères-de-Bigorre, destination barcelonnette. Et je me souviens très bien d'un gros orage à Miramas qui m'a obligé à m'abriter dans une boulangerie, donc j'en ai profité pour me restaurer, mais je pouvais plus rouler. On ne voyait pas à 5 mètres. Et je venais de partir. Donc là, c'était pas évident de pas faire demi-tour, en fait. Là, on se pose beaucoup de questions.
Vous avez eu envie, vous êtes demandé ?
Le plus dur, c'est de partir, en fait.
Ouais.
Le plus dur, c'est vraiment de partir. C'est le premier jour, parce qu'en fait, on a des moyens de revenir. On peut se dire, je me suis trompé, je rentre. Mais il faut tenir, parce qu'on a un objectif. Donc non, j'ai pas trop eu ces états d'esprit, en fait.
Vous aviez un plan assez précis au départ, vous vouliez traverser l'Europe, alors je crois que vous aviez prévu de faire entre 25 et 28 000 kilomètres. Finalement, vous n'avez pas tout à fait suivi l'itinéraire prévu, ni suivi le plan initial.
Alors c'est un gros travail de préparation, parce que c'est des environnements qu'on ne connaît pas, enfin que moi je ne connaissais pas, et donc j'avais préparé ça avec des blogs de gens qui avaient voyagé, plusieurs blogs, des gens qui ont fait ça soit en avion et moto, soit en voiture, soit en vélo, j'ai rencontré beaucoup de gens en vélo là-bas aussi. Donc en fait l'objectif c'était d'aller de traverser l'Europe, la Turquie, d'aller en Irak, puisque nous avons accueilli à Bagnères-de-Bigorre des chrétiens d'Irak, et donc je suis allé rendre visite à la famille des gens qu'on a accueillis sur Bagnères-de-Bigorre, et de revenir par l'Azerbaïdjan, et l'Azerbaïdjan traverser la Caspienne en bateau pour me retrouver au Kazakhstan. En fait, quand je me suis retrouvé face à l'Azerbaïdjan, toutes les frontières étaient fermées. Donc c'était possible d'aller en Azerbaïdjan en avion, mais c'était pas possible d'y aller par les moyens terrestres. Donc j'ai essayé à plusieurs reprises de passer la frontière. Bon, j'ai eu quelques déboires avec les douaniers et la gendarmerie, la police nationale là-bas. Mais donc j'ai dû passer à partir de la Géorgie, j'ai dû attendre un petit moment et avoir un visa pour traverser la Russie. Donc là, les plans commençaient à changer. Outre le climat, là on n'était plus sur des problèmes de climat, on était vraiment sur des problèmes politiques. Et donc j'ai dû traverser donc la Russie. Vous pouvez imaginer que la Russie en ce moment, c'est pas évident à traverser.
C'était pas la meilleure période, oui.
D'autant plus que je travaille en Ukraine. Donc j'ai un passeport qui est assez fourni en visa ukrainien, donc en tampon ukrainien. Donc ça m'a valu d'avoir un interrogatoire assez cocasse sur la frontière russe et d'être retenu sur la frontière pendant plus de 9 heures.
Comment on réagit ? Qu'est-ce que vous vous dites quand vous êtes dans ces moments-là ? Est-ce que vous dites, voilà, oh, je me suis mis dans une galère, pas possible, j'aurais pas dû. Est-ce que vous vous dites, ça va aller. Enfin, dans quel état d'esprit vous êtes quand il y a des petits couacs comme ça, ou des gros couacs ?
Oui, il y a des petits, il y a des gros couacs, mais pour ma part, je me suis jamais positionné dans ces questionnements. Je me suis jamais dit, j'aurais pas dû venir ou j'aurais pas dû partir.
Faut foncer, faut foncer.
Déjà, on vit au jour le le jour. Hein, ouais. C'est très différent de notre vie en Europe ou de notre vie quotidienne. On a un plan, c'est vrai qu'il y a un plan. Moi, j'avais une roadmap, j'avais une carte, j'avais un plan de route, en fait, on va dire. Mais par contre, ce plan, il changeait tous les jours. En fonction des rencontres, en fonction de ce qui se passait sur la route, une crevaison, un manque d'essence, enfin, tout est soumis à modification, en fait. Donc, on a beau être préparé au mieux, c'est très très difficile de tenir le planning et donc on s'adapte constamment.
Ça veut dire qu'au quotidien, vous vous mettiez à des objectifs de kilométrage, de distance à parcourir, où vous vous disiez, bah, en fait, ça avancera au gré des rencontres. Parce que quand on a un objectif, là vous aviez un objectif précis, mais on entend aussi que vous vouliez rester ouvert aux rencontres des communautés, des populations que vous alliez rencontrer sur le terrain, quoi.
Tout à fait. Alors, mon objectif, c'était de rouler aux environs de 450 km maximum par jour et de rouler à peu près 8 heures. Donc, je partais relativement
tôt. En moto, c'est beaucoup, c'est fatigant.
C'est fatigant, mais bon, c'est aussi agréable. Hein. Donc, quand je dis rouler 8 heures, vous voyez bien, 400 km en 8 heures, ça, on ne roule pas vite, hein, on ne roule pas très vite. Il faut savoir qu'on a des... Moi, j'avais une vieille Honda des années 2000, donc, qui était hyper chargée.
Ça ne parle pas beaucoup à Gérard Croza, le modèle, là, mais...
Pas du tout. Pas du tout.
Mais je suis sûr qu'on va le convaincre. Il n'y avait pas de place pour les passagers, par contre, puisque la moto était très, très bien chargée.
Ah, je suis déçu.
Donc, vous étiez en autonomie, du coup, ou
total, ça... En autonomie totale. C'est-à-dire que, en fait, toile de tente, matelas, sac de couchage, le réchaud à multicombustible, donc pas un réchaud à gaz, parce que des fois, on ne trouve pas de gaz, donc ça peut marcher à l'essence. Donc, du matériel qui est adapté pour ce genre de voyage.
Mais parfois, vous avez dormi chez l'habitant ?
Alors, ça a été hyper surprenant. C'est-à-dire que les gens sont hyper ouverts en Grèce, en Turquie, au Kazakhstan. Les gens vous ouvrent les portes de chez eux et vous pouvez dormir chez eux. Il faut savoir que les cyclistes qui font... j'ai traversé la zone du Pamir, donc on longe la rivière Panj. Donc là, on est sur la frontière afghane. Et j'ai rencontré beaucoup de cyclistes qui, eux, bien sûr, roulent beaucoup moins vite et font une vingtaine de kilomètres, 30 kilomètres par jour. Mais par contre, ils dorment chez l'habitant. Tout le temps. D'accord. Et tout ça, c'est gratuit. C'est-à-dire que les gens vous invitent pour rien.
Il n'y a pas de méfiance ?
Non. Moi, je ne l'ai jamais ressenti. J'ai un très bel exemple. Hein, en Tchétchénie, au début, j'étais assez méfiant parce que les gens sont armés. Quand vous allez faire le plein d'essence, il y a des armes derrière les comptoirs. Et bon, moi, j'avais mon immatriculation française. Hein, donc, vous avez le drapeau français derrière la moto. Et les gens, au début, vous regardent d'un mauvais œil. Hein. Il y a beaucoup de Tchétchènes qui sont en Ukraine. Hein, et ils savent que la France, on est plutôt un soutien de l'Ukraine que de la Russie. Donc, en fait, les gens vous posent des questions. Mais au final, on arrive à discuter. Et c'est tout à fait ce que disait Gérard, je crois, à un moment, en préambule. C'est que le plus important, c'est d'arriver à communiquer avec l'autre. Quand vous parliez de l'unité des chrétiens, le plus important, c'est d'arriver à communiquer pourquoi on est là, le comment et la passion. En fait, cette envie de rencontrer l'autre, ça permet de casser pas mal de barrières, en fait. Et ça, c'est, à mon avis, hyper important.
Vous parliez en quelle langue dans tous ces pays-là ? En anglais, tout le temps ?
J'ai la chance de parler anglais couramment, donc en fait, je parlais en anglais. Et des fois, j'avoue que Google Translate, c'est pas mal. Donc, on a le traducteur sur Google et ça aide pas mal. Et aujourd'hui, je me suis mis à apprendre le russe parce que je pense que quand vous allez dans ces pays-là, soit vous parlez turc, soit vous parlez russe. Mais si vous arrivez à parler turc ou russe, vous arrivez à vous faire comprendre jusqu'en Chine, en fait. Mmh. Donc, voilà.
Au total, vous avez traversé combien de pays ? Vous avez découvert combien de pays ?
J'ai traversé 18 pays au total. Alors, le Kazakhstan, vous le traversez plusieurs fois, mais j'ai dû traverser 18 pays et j'ai fait 28 000 km, en gros. Sans compter le retour. Puisque pour le retour, j'ai envoyé ma moto du Kirghizistan jusqu'en Pologne par camion. Et donc, je suis allé rechercher la moto en Pologne après, en septembre. Le temps qu'elle arrive, je suis allé chercher en septembre. Donc, j'ai fait Pologne via l'Italie, j'ai fait Tchéquie, Autriche, Italie et puis la France.
C'est quoi la leçon d'un périple comme ça ?
Alors, La leçon, elle est multiple.
Il y en a, ouais, mais...
Non, mais il y en a, bien sûr. On fait pas un périple comme ça en y laissant pas des plumes, quoi. En fait, la leçon, elle est multiple. D'abord, on apprend à se connaître. Hein. La prise de risque, c'est pas une prise de danger, en fait. C'est pas une mise en danger. Hein. C'est vraiment une prise de risque calculée. Je pense que j'ai jamais trop été en danger, même si... J'ai eu un accident au Kirghizistan, je n'avais pas de réseau. Et puis bon, on rencontre des gens qui sont là pour vous aider. Hein.
Qu'est-ce qui s'est passé au Kirghizistan?
Non, rien.
C'était quoi cet accident? Qu'est-ce qui s'est passé?
En fait, j'étais dans le désert du Kirghiz et en fait, je roulais. Les paysages étaient merveilleux. Et je roulais relativement vite sur du hors-piste. Il faut savoir que 80% des routes là-bas sont inexistantes. C'est du hors-piste. Donc j'étais vraiment... J'étais pas sur ma moto en fait, j'étais ailleurs, j'étais dans le paysage et pas sur la moto. Et donc à un moment je reviens sur la moto, dans ma tête, et je vois que ma roue est trop sur le côté à droite, il y avait une ornière à droite. Et là, chose qu'il faut pas faire, hein, je me dis il faut surtout pas aller à droite. Et en fait j'ai donné un coup de guidon à droite. Et donc là j'ai eu un accident, je me suis retrouvé au sol, donc assez groggy, j'avais une clavicule cassée, et j'étais dans un endroit où pas de réseau, la moto à l'envers, donc avec une clavicule cassée, impossible de la retourner, et pas de voiture. Donc la première chose que j'ai faite pour ne pas perdre connaissance, c'est de me mettre dans la rivière qui était à côté. Donc je suis allé tout habillé, me mettre dans l'eau froide, et pour reprendre mes esprits. Et ensuite je suis revenu sur la route, j'ai récupéré mes affaires qui étaient un peu dispersées, j'ai regroupé ça sur un coin de la moto, et j'ai attendu qu'une voiture passe. Donc pour revenir à votre première question, Anne-Rose, en disant est-ce que des fois on se dit pas qu'est-ce qu'on fait là, est-ce qu'on va pas faire demi-tour? Non, là il faut surtout lutter pour que le cerveau se mette en mode je vais y arriver. Et ce que j'ai fait, je crois que j'ai prié là, à un moment j'ai prié parce que bon, j'ai une dévotion particulière à la Vierge Marie, j'ai dû faire quelques « Je vous salue Marie ». Et je me suis dit de toute façon le Seigneur m'a pas mis là pour que je m'en sorte pas quoi. Donc même s'il n'y a pas de réseau, on va s'en sortir. Et 45 minutes après, une voiture est arrivée. Ce qu'il faut savoir, c'est que les gens ne s'arrêtent pas là-bas, parce qu'il y a du hijacking, il y a eu du carjacking. En fait, les gens se font agresser, ils font semblant d'avoir des accidents, des gens font semblant d'avoir des accidents, et les gens s'arrêtaient à l'époque, et on leur volait leur voiture. Donc là, la chance que j'ai eue, c'est que c'était un taxi, c'était un 4x4 qui transportait un couple d'Italiens, et l'Italien était motard. Donc quand il a vu la moto au sol, il a vu que je ne faisais pas semblant, et donc ils se sont arrêtés. Et donc, ils ont pris toutes mes affaires. Le chauffeur a mis dans mon téléphone les coordonnées GPS de l'endroit où ils allaient s'arrêter. Et moi, je leur ai dit, montez, prenez mes affaires, parce que je ne pourrais pas conduire avec une moto chargée. Ils ont pris mes affaires, et moi, je les ai suivis à moto. Ils sont partis. Et je suivis la trace GPS qu'ils m'avaient laissée. Et donc, au bout de 3 heures, j'ai rejoint le camp, qui était à côté du lac du Songkhoul, donc au Kirghizistan. Un lac merveilleux. Et encore une fois, la providence, c'est que dans ce lac, il y avait une personne qui travaillait, qui était élève médecin. Donc, et qui parlait un peu anglais, donc les gens du lac, du camp m'ont fait rencontrer cette personne, et quand elle a vu mon épaule, elle m'a dit il faut pas rester là, il faut aller à un hôpital. Donc l'hôpital n'était pas très loin, il était à 50 km de l'endroit où j'étais, sauf que 50 km au Kirghizistan, c'est 3 heures de route, hein, puisque j'étais à côté du col des 27 perroquets, qui est un col que vous pouvez sur lequel vous ne pouvez circuler qu'en 4x4 ou en moto tout-terrain, quoi. Donc la descente avec une épaule cassée, c'était assez d'abord douloureux et puis épique. Voilà.
On entend que vous avez rencontré beaucoup de personnes qui a finalement à chaque fois été disposées à vous aider, à vous encourager. C'est étonnant ça aussi, cette ouverture d'esprit dont qu'on ne peut pas forcément soupçonner ou qu'on a du mal à soupçonner d'ici finalement. Les gens sans même savoir qui vous êtes et ce que vous faites, ou même avec peut-être des difficultés à comprendre ce que vous venez faire, c'était pas simple quand même à expliquer comme mission. Eh bien, ils vous ont fait confiance aussi. Vous leur avez fait confiance, mais c'était réciproque.
C'est réciproque, c'est mutuel. Ce qui est intéressant, c'est que les gens sont prêts à donner énormément, en fait. Ouais. J'ai un souvenir en tête. Il y a un endroit, il y a un tronçon. Quand vous êtes à Bénou, vous êtes dans le désert du Mangoustan. Et en fait, entre Bénou et Nokous, c'est deux grandes villes... on va dire des grandes villes qui sont sur ce territoire-là, elles sont rejointes par une piste. C'est que du hors-piste, c'est une piste. Et donc là, vous n'avez pas de station essence. Donc si vous arrive quelque chose, ben vous attendez que quelqu'un s'arrête. Et en fait, à un moment, je m'arrête, j'étais sur la mer d'Aral, sur ce qu'il en reste, et je faisais une photo. Il y avait une petite fosse avec un peu de sel, en fait, il y a beaucoup de sel là-bas, donc je faisais une photo, c'était assez joli, il y avait des belles couleurs. Et là, j'étais arrêté sur le bas-côté, et un chauffeur poids lourd s'arrête. Hein. Et de suite, en sortant, il sort du camion en courant, il me dit « Est-ce que vous êtes OK ?»« OK, OK ?» Et j'ai dit « Oui, je suis OK, je fais une photo. » Et là, la personne, je la vois remonter dans son camion. Et le gars, il ressort de son camion avec un pain. Donc là-bas, c'est que des pains ronds. Hein. C'est des pains faits maison. Et en fait, le gars m'offrait son pain. Et il me dit, c'est ma femme qui m'a fait le pain pour la journée, je vous le donne. J'avais rien demandé. Rien. Et en fait, les gens sont prêts à partager. J'ai l'exemple justement aussi en Tchétchénie où on a mangé à un moment, je voulais me restaurer, je m'arrête dans un petit restaurant, c'était un restaurant de rue, hein, et là le gars voulait m'inviter à manger, j'ai pas payé, déjà j'ai pas payé, et la personne voulait m'inviter à dormir là, il voulait pas que je reparte, parce qu'il voulait échanger. Ils voulaient communiquer. Et donc les gens ont vraiment un besoin de communiquer. Il y a une entraide énorme dans ces pays-là.
Gérard Croza.
Oui, moi je suis admiratif et ça me confirme dans une certitude, c'est que je ne le ferai pas. Mais ceci dit, moi j'ai envie de vous poser une question peut-être plus privée, mais quand vous avez annoncé à votre épouse et à vos enfants que vous partiez comme ça, et elles se sont dit, il est fou, ou quoi?
Alors, ou quoi? Fou, je pense que... Bon, déjà, mes enfants étaient super enchantés que je fasse cette aventure. Parce qu'en fait, il faut savoir, Gérard, que c'est un rêve. On en parle, mais de loin, c'est loin. Et là où ça a marqué mon épouse, c'est quand j'ai commencé à écrire là-dessus. C'est-à-dire qu'à un moment, on écrit, on fait un projet, on fait une carte. On marque des points sur une carte. On achète une carte du Kazakhstan, par exemple.
Donc là, elle s'est dit, aïe, 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 en fait, il va le faire.
Exactement. Là, le projet, ça reste un projet. Mais quand vous achetez une moto exprès pour aller là-bas, une vieille moto sans électronique, un truc un peu sûr, là, il n'y a plus de recul. Et quand vous commencez à en parler à votre entreprise, de dire, je vais partir en congé pendant 5 mois, je vais écluser mon compte épargne-temps, parce que j'ai cette chance d'être dans une entreprise où on avait ces congés. Donc là, ça y est, c'est fait. C'est pas pour autant que c'est annoncé que c'est accepté. Pour mon épouse, ça a été très très compliqué. Après, je pense que voilà, il y a une solidarité. Aujourd'hui, il y a un réseau au niveau de Bagnères. Nous, je pense que mon épouse, pendant mon départ, pendant mon absence, ça a été très très appuyé aussi par les gens qu'on connaît sur Bagnères et par la famille aussi.
Et vous aviez contact avec eux après? Comment ça se passait durant ces semaines?
Oui, il y a des périodes où vous ne pouvez pas... Enfin, s'il n'y avait pas de réseau, pas de nouvelles,
alors,
quoi.
Quand il y avait du réseau, on pouvait. Ouais, on pouvait se contacter tous les soirs. On essayait. On essayait de s'appeler régulièrement. Alors, quand il y a des McDo, c'est super pratique parce que vous avez un McDo et vous utilisez le réseau de McDo. Donc ça, c'est pas pour autant que vous consommez McDo, mais vous pouvez utiliser le réseau. Mais par contre, après, quand il n'y a rien, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'il y a des jours, quand j'ai eu mon accident à clavicule cassée, je l'ai contacté quand j'étais à l'hôpital. J'ai dit, voilà, je suis à l'hôpital, tout va bien, il n'y a aucun problème, j'ai juste une clavicule cassée. Et donc, et après, je ne pourrais plus te rappeler parce que justement, je remonte à un endroit où je n'ai plus de réseau. Il faut savoir que la majorité des lieux qu'on traverse, il n'y a pas de réseau. Même en Russie, il n'y a pas de réseau partout. Hein.
Voilà. Et jamais votre épouse ou vos proches vous ont dit, bah, en fait, pour nous, c'est trop dur, on s'inquiète trop, faut que tu rentres.
Non, j'ai pas eu ce retour d'expérience, j'ai pas eu ce retour, et je les en remercie, parce que c'est quand même... J'imagine que c'est une expérience compliquée, mais non, j'ai jamais eu ce retour.
Et alors, votre retour à vous, justement, ici, comment ça se passe quand vous revenez, que vous avez vécu un tas d'expériences exaltantes, des rencontres incroyables que vous n'oublierez jamais, que vous avez envie de raconter ça à tout le monde, et puis qu'ici, tout le monde est resté un petit peu dans son train-train, ou du moins dans un quotidien beaucoup plus commun. Ce décalage-là, est-ce qu'il est dur à vivre? Et puis, qu'est-ce qu'on fait quand on rentre?
En d'autres termes, est-ce que vous trouvez que les Kouréous, c'est un peu petit maintenant?
Oui, alors non, parce que c'est un retour à la maison et ça fait du bien d'être chez soi aussi. Ça, c'est important d'être chez soi et de retrouver ses racines. Et parce qu'on peut le faire, ce genre d'expérience, on peut la faire, la vivre que quand il y a un équilibre familial très fort. S'il n'y a pas un équilibre familial très fort, je pense que c'est très compliqué de partir comme ça. Le retour, ce qui est perturbant, c'est de revenir. Moi, j'avais toujours prévu de revenir en avion et de renvoyer la moto sur camion. Donc, ce qui est perturbant, c'est que quand j'étais dans l'avion, j'ai vu les routes que j'avais traversées en moto. Et donc, en fait, on se dit, On est dans un avion, c'est hyper confortable, et ça, c'est perturbant. D'avoir vraiment vécu quelque chose de hyper stressant, parce qu'il faut imaginer 580 km à 40 degrés, 50 degrés dehors, c'est que de la poussière, c'est que du hors-piste, il y a des camions, il y a des cailloux partout, il y a quelques voitures qui roulent relativement vite, et vous, avec votre moto, vous essayez de passer entre tout
galère,
ça, c'est hyper galère, et même avec un très bon équipement, c'est hyper compliqué. Et quand vous rentrez chez vous, vous êtes dans un avion. Donc on est dans un environnement...
C'est presque trop facile.
C'est trop facile.
Ouais.
Et ça, c'est hyper perturbant. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup perturbé sur le retour. Après, le retour, il y a tellement de gens qui veulent que vous en parliez, c'est que vous gardez un lien dedans. On est encore... le retour, c'est pas un atterrissage brutal, en fait. Ça se fait tout doucement. Aujourd'hui, on en parle sur Radio Présence. Vous m'avez donné l'opportunité d'échanger sur ce périple sur Radio Présence. C'est aussi un moyen de rester aussi dans ce voyage-là. Je pense que c'est important de pas rompre directement avec le voyage. De toute façon, je pense que c'est pas possible de rompre directement après une expérience comme ça.
Andy Barrejo.
Et du coup, est-ce que la Mongolie ressemblait à celle que vous figuriez, celle d'Ushuaïa?
Finalement, l'objectif de départ...
Quelle année finalement, le but était-il à la hauteur, au final?
Alors, la Mongolie reste à découvrir. C'est-à-dire que moi, mon périple s'est arrêté au Kirghizistan. Pourquoi au Kirghizistan? D'abord parce qu'il y avait une clavicule cassée. Ceci dit, j'ai tenté de retourner, de prendre la Mongolie. Donc je suis allé avec ma clavicule cassée, j'ai fait 1000 km pour aller au Kazakhstan. Pour avoir un second visa pour la Russie, c'était au mois d'août. Et au mois d'août, la Russie avait complètement fermé ses portes aux étrangers. Donc en fait, j'ai pas pu traverser la Russie pour une seconde fois. Et donc, j'ai pas pu aller sur la Mongolie. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes au Kazakhstan, il y a deux chemins pour aller en Mongolie. C'est soit la Chine, et en moto, c'est impossible, sauf à avoir un guide, et c'est très très cher. Soit à passer par la Russie. Et donc là, vu la situation politique, j'ai pas pu aller en Russie, donc j'ai pas pu atteindre la Mongolie. Donc la Mongolie reste à découvrir. Donc en fait, j'ai pas atteint mon but.
Donc il va falloir repartir.
Alors peut-être que je repartirai pas. Je repartirai peut-être pas en moto, mais
en
l'objectif
bus
c'est
avec Gérard
Croza. Voilà. Peut-être pourquoi
un
pas un bus avec Gérard Croza, mais plutôt un avion et après louer une moto et aller voir ces agriculteurs qui sont maraîchers là-bas.
Bien.
Une dernière question, on parlait au tout début de cette émission de la crise agricole avec cette consommation et la manière qu'on a ici de consommer. Est-ce que votre périple vous a ouvert les yeux sur la manière de produire et de consommer des populations dans ces pays-là?
Alors, tout ce qu'on mange, c'est du local là-bas. Il y a très peu d'importations, à part en Russie où c'est un peu plus, c'est plus varié, on va dire. Et bon, bien sûr l'Europe. Mais à partir de la Turquie, moi je faisais beaucoup de street food ou de repas sur la route, en bord de route. Donc c'est très local et c'est souvent des galettes, beaucoup de pain, beaucoup de galettes, ou des sortes de chaussons avec de la fourrée à la viande ou aux légumes. En fait, c'est souvent pareil, quoi. Ou les raviolis qu'on retrouve un peu partout, Turquie, Géorgie, et la Russie, et même en allant vers le Kirghizistan ou l'Ouzbékistan, on retrouve des raviolis qui sont farcis à base de... C'est des farces, soit légumes, soit viande. Et vous pouvez acheter ça en bord de route. Donc, on retrouve toujours les mêmes choses. Et après, c'est souvent fabriqué devant vous, hein. Moi, je sais que...
Là, le circuit court, c'est une évidence.
C'est une évidence. Ouais. Moi, à un moment, je me suis arrêté. Il y avait des fours à pain sur le bord de la route. Et je voulais savoir ce qu'ils faisaient dans ce four à pain. Donc, je m'arrête. Je rencontre un petit papy avec sa petite fille, là. Et voilà, je fais comprendre que je suis un voyageur. Donc, ça, c'était pas compliqué à voir, puisque vu comment j'étais chargé. Et je voulais savoir ce qu'il y avait dans ce four à pain. Donc, la personne m'ouvre le four à pain. Et c'était des boules de pain qui sont fourrés à la viande. Et donc la personne venait de faire une fournée et il m'a offert le repas. Et voilà, avec un coca. Et... Alors quand on traverse les pays musulmans, il n'y a plus de bière. C'est clair, il n'y a plus de bière, c'est que du coca, du Fanta. J'ai bu du Fanta sur tous les pays musulmans. Là. J'ai fait que du Fanta.
Merci beaucoup Richard Carbonel pour ce témoignage, pour cette aventure. Voilà, je vous avais dit qu'on allait voyager aujourd'hui.
Combien de kilomètres?
En gros, 28 000 kilomètres. Alors, j'ai pas le compteur puisque mon compteur kilométrique était cassé depuis Thessalonique. 28 000 kilomètres en gros.
Pour aller goûter les circuits courts. C'est une bonne leçon.
Merci Gérard Croza, mais c'est pas la seule chose qu'il faut retenir de cette émission. Merci beaucoup pour votre témoignage, Richard Carbonel. Merci à vous quand même, malgré vos blagues, Gérard Croza. Merci Andy Barrejo. On se retrouve le mois prochain, non la semaine prochaine, parce que c'est à nouveau nous, la semaine prochaine. Et nous aurons d'autres invités sur un tout autre sujet. Nous parlerons de la manière de prendre soin des personnes malades. Voilà, à la semaine prochaine et très bon week-end d'ici là.
Au revoir.
Merci.
L'heure de pointe, Anne-Rose Jankovic.